Vous écoutez, on lit pour vous.
Des critiques parfois déconcertantes sur les parcs nationaux, un texte de Marie Tison, paru le 19 janvier 2024 dans la presse. Il y a trop de moustiques assoiffés de sang, trop de ratons laveurs effrontés, trop de cailloux dans les sentiers. Les commentaires que les visiteurs de parcs nationaux laissent sur des sites comme TripAdvisor sont parfois étonnants. Les attentes de certains visiteurs semblent un peu irréalistes et ceux-ci sont décontenancés lorsque la réalité ne correspond pas à leur vision idéalisée de la nature. Il faut noter que l'immense majorité des commentaires qu'on retrouve sur ces sites sont très positifs. Les visiteurs apprécient les parcs nationaux, ils sont conquis par les paysages, ils aiment les activités qu'on leur propose et ils saluent la gentillesse des employés. Lorsqu'ils laissent des commentaires négatifs, il s'agit essentiellement de critiques légitimes. Par exemple, plusieurs visiteurs déplorent le fait que les chiens ne soient pas acceptés dans certains sentiers de randonnée. D'autres signalent des installations sanitaires mal entretenues. Les visiteurs qui passent une nuit au camping de la rivière du Sud-Ouest, au parc national du Bic, sont nombreux à pester contre le bruit de la route 132 à un jet de pierre. Plusieurs visiteurs des parcs nationaux déplorent également les coûts des différents services qui finissent par s'additionner et constituer une grosse facture. Cailloux, moustiques et herbes à puces. À côté de ces critiques bien compréhensibles, on trouve quelques perles de la part de visiteurs qui oublient que la nature, c'est la nature. Comme des doléances sur la condition des sentiers de randonnée. Beaucoup trop de roches, assez pour vous briser les chevilles et les genoux lors de la descente, déplore un couple au sujet d'un sentier du parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Quand ce ne sont pas les cailloux, c'est la végétation qui inquiète certains visiteurs. Les terrains sont littéralement encerclés d'herbes à puces, note une famille de Montréal, après une visite au parc national d'Oka. Il y en a des millions, je pense. Avec un enfant en bas âge, ce n'est pas de tout repos. Des visiteurs sont désagréablement surpris par la présence de moustiques et d'autres insectes suceurs de sang. Quand je suis arrivée à mon site de camping, j'ai descendu de l'auto et j'ai commencé à être entourée de moustiques et d'insectes, raconte un visiteur du parc national du Mont-Tremblant. C'était insensé. Ça dépassait les limites. Ça rendait fou. En une heure, je me suis retrouvée avec 30 piqûres. J'ai utilisé les meilleurs vaporisateurs et crèmes qu'ils vendaient au parc, mais rien ne les a arrêtés. Au parc national d'Oka, les ratons laveurs laissent aussi de mauvais souvenirs. Dès notre première soirée, des ratons laveurs à la recherche de nourriture se sont invités sur notre terrain. Ils sont très durs à faire fuir, puisqu'ils sont très familiers avec la présence humaine. C'était surtout déplaisant de toujours devoir surveiller nos alentours lors des repas et de ne pouvoir laisser aucune nourriture sans surveillance. Ils sont vraiment rapides et effrontés. Ils osent même voler devant nous. D'autres visiteurs déplorent plutôt l'absence de faune. On n'a pas trouvé ce que l'on cherchait, le calme et les animaux sauvages, raconte un touriste français après une visite au parc national de la Mauricie. Malgré deux petites randonnées, le plus gros animal rencontré a été un écureuil. Un autre touriste français se montre déçu par la monotonie du paysage du même parc. Je me suis cru sur l'autoroute où on voit un peu la même chose. Des sapins, des lacs, des sapins, des lacs. J'imagine être naïvement voir des animaux. Il vaut mieux aller au zoo. Des touristes français s'ennuient de leur propre forêt. On devait voir des animaux et des beaux paysages. On n'a rien vu, se plaint un touriste d'Avignon. Après une visite au parc national de la Gaspésie. Ce parc n'est ni plus ni moins une forêt avec des sentiers de rando comme on en attend en France. Aucune originalité. Une autre famille française a connu une sortie de kayak très décevante au parc national du Bic. Nous avons dû enfiler une combinaison mouillée. Nous sommes partis sous la pluie. La guide avait peu de choses à raconter et le vent s'est levé. Pour finir, nous devons ranger et laver tout le matériel. Vu le prix et les conditions du jour, c'était le pompon. Toutefois, les Français n'ont pas le monopole de la critique. Une visiteuse de Québec multiplie les doléances après une visite au parc de la gorge de Coaticook. Site de camping peu intime, eau de la piscine trop froide. Et le magasin d'accueil qui ne vend pas de saucisses à hot dog. Me semble que c'est la moindre des choses dans un camping. C'étaient des critiques parfois déconcertantes sur les parcs nationaux, un texte de Marie Tison, paru le 19 janvier 2024 dans La Presse.
L'avantage de la beauté. Un texte de France Dufresne, paru le 12 décembre 2023 dans La Presse. Encore de nos jours, je suis régulièrement témoin de situations où le choix entre deux candidats se fait en tenant compte de leur beauté respective. Il m'apparaît évident que la beauté d'une personne constitue un avantage indéniable et qu'être une belle personne, physiquement, aide énormément sa carrière. Qu'en pensez-vous? Question de Pierre, un lecteur. Il est vrai que le processus de recrutement ne s'arrête pas à l'évaluation des compétences décrites dans le CV. Un aspect souvent sous-estimé et prévalent lors de l'évaluation des aptitudes en entrevue est le biais de l'apparence ou lookisme, soit la discrimination selon l'apparence physique. Sous l'effet de ce biais, l'apparence joue un rôle important dans le processus de sélection, favorisant souvent les personnes physiquement attirantes lors de l'embauche ou de l'attribution de promotion et d'augmentation salariale. Le talent des candidats, leur capacité à accomplir des tâches et leurs aptitudes sociales sont alors jugés en fonction de leurs traits physiques. Les manifestations de ce biais se traduisent par des préjugés liés notamment au poids, au style personnel et à la conformité aux normes de beauté de la société. L'effet multidimensionnel du lookisme. Vous soulignez, bien cher lecteur, la plus connue des dimensions du lookisme. Lorsque l'on pense au biais de l'apparence, la grande majorité d'entre nous pense qu'une personne considérée comme belle par la société est avantagée. Cependant, le lookisme touche aussi les personnes qui ne répondent pas aux critères de beauté, c'est-à-dire qu'elles sont jugées négativement sur la base de leur apparence physique lorsqu'elles sont considérées comme ne répondant pas aux standards de beauté. Toutefois, la beauté n'a pas que des avantages. Le lookisme comporte aussi une dimension qui, elle, désavantage les personnes considérées comme belles. En effet, malgré les stéréotypes positifs dont bénéficient souvent les personnes physiquement attirantes, le biais de l'apparence peut aussi leur nuire. Ce préjugé peut faire en sorte qu'une « belle » personne soit jugée comme moins intelligente ou moins digne de confiance, ou encore qu'elle soit perçue comme une potentielle source de conflit ou de jalousie dans l'équipe. Ainsi, comme tout préjugé, le biais de l'apparence repose sur une discrimination très large basée sur des critères subjectifs qui n'ont rien à voir avec les capacités de la personne et qui peut avoir comme conséquence de négliger d'excellents candidats. Cependant, ne vous laissez pas décourager par le lookisme et n'abandonnez pas votre idée d'une carrière de rêve, car certaines astuces peuvent vous aider à vous protéger de ce préjugé. Déjouer le lookisme. D'abord, utilisez consciemment le biais de l'apparence pour envoyer un message à votre employeur, futur ou actuel. Cultivez une image professionnelle soignée pour renforcer votre crédibilité et démontrer le sérieux que vous accordez à votre travail. Ensuite, faites votre possible pour contrer la tendance que pourraient avoir certains employeurs à ne vous juger que sur votre apparence. Démontrez clairement vos compétences, votre intégration à l'équipe, votre apport ainsi que votre performance tout en mettant de l'avant votre personnalité. Il est crucial que vous veilliez à ce que vos aptitudes professionnelles et interpersonnelles transcendent les stéréotypes. Mettez l'accent sur vos réalisations, votre attitude et vos objectifs au travail, ainsi que sur les relations que vous avez établies. En démontrant constamment votre valeur ajoutée, vous pourrez neutraliser les préjugés liés à l'apparence. De plus, votre confiance en vous représentera un atout puissant. En vous présentant avec confiance, vous pourrez influencer positivement la perception des autres à votre égard. Combattez le lookisme. Comme nous l'avons établi, le biais de l'apparence peut affecter ou avoir affecté la carrière de tout un chacun. Face au lookisme, faites partie de la solution. N'hésitez pas à soulever les situations qui semblent injustes ou biaisées auprès d'une personne de confiance au sein de votre entreprise. Participez aux discussions et aux séances de formation sur les biais et présentez vos idées. Souvenez-vous, personne n'est à l'abri d'entretenir des préjugés ou de subir les effets néfastes des biais des autres. Vous êtes le gestionnaire de Pierre? Votre rôle pour combattre les préjugés et vos biais, conscients ou non, est, en tout temps, des plus importants. L'impact du biais de l'apparence va au-delà des personnes, car il affecte également l'acquisition, l'engagement et la rétention des talents au sein des organisations. Les biais étant ancrés en chacun d'entre nous, les organisations se doivent de réfléchir à leur culture organisationnelle et de réévaluer leurs critères de réussite en tenant compte de l'existence de ces préjugés. Les leaders doivent accorder la priorité aux compétences et aux connaissances plutôt qu'à l'apparence, garantissant ainsi des processus équitables et transparents. Des pratiques transparentes, notamment un processus de sélection structuré et documenté, peuvent atténuer les biais. Même les dirigeants les plus efficaces sont partiaux. Nous voyons le monde à travers d'énormes filtres et nous n'avons pas conscience de ces filtres. Traduction libre, David Rock, cofondateur et PDG du Neuro Leadership Institute. La première étape pour combattre ces biais et d'en prendre conscience. De nombreuses études ont démontré que les personnes ayant pris conscience de leurs préjugés sont plus susceptibles de les changer. En tant que gestionnaire, il est essentiel d'incarner les valeurs organisationnelles et de corriger tout biais injuste. Les dirigeants doivent dénoncer les doubles standards et les biais implicites afin de créer une culture inclusive. Participez activement aux initiatives visant à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise et incluez vos équipes. Soutenez les programmes qui valorisent la richesse des talents et des perspectives diverses. Enfin, soutenez activement vos collègues et vos employés qui pourraient être victimes de lookisme ou qui signaleraient de telles situations. Intervenez si vous observez des comportements discriminatoires. Songez à former vos équipes sur les préjugés et encouragez un environnement de travail respectueux. C'était « L'avantage de la beauté », un texte de France Dufresne, paru le 12 décembre 2023 dans la presse.
Se loger coûtera-t-il moins cher? Un texte de Carl Rétino-Paracelli, paru dans la revue L'Actualité, édition mars 2024. Qu'on soit propriétaire ou locataire, se loger coûte cher. Le manque de logements et de maisons disponibles complique les recherches. Et, surtout, les taux d'intérêt élevés font bondir les paiements hypothécaires ou reportent carrément la réalisation du rêve de devenir propriétaire. Les yeux sont donc rivés sur la Banque du Canada, qui pourrait bousculer le marché de l'habitation avec ses prochaines décisions et sur les encouragements fiscaux visant à stimuler la construction. Scénario probable, une baisse des taux d'intérêt en milieu d'année et une crise du logement qui va continuer. Citation : À partir du moment où les taux vont baisser, ça va donner un peu d'espoir à ceux qui cherchent à acheter une maison ou à faire un achat important qui nécessite du crédit. Fin de citation, dit Jimmy Jean. C'est ce qui semble s'annoncer. Une première baisse du taux directeur devrait survenir au deuxième trimestre, s'entendent les grandes banques canadiennes. On devrait ensuite avoir droit à un certain nombre de baisses de taux, de sorte qu'à la fin de 2024, le taux directeur se situerait entre 3,25 et 4,5 selon les prédictions des différentes institutions financières. Chaque baisse de taux serait reçue comme une bonne nouvelle par les emprunteurs qui ont une hypothèque ou un prêt à taux variable, mais aussi par les entrepreneurs en construction qui verront diminuer le coût de financement de leurs immeubles. Le manque de logements, à la fois pour la revente et pour le marché locatif, ne se réglera cependant pas de sitôt, soutient Paul Cardinal. Selon lui, le nombre de mises en chantier pourrait s'élever à 45 000 au Québec en 2024, c'était 40 000 en 2023. Citation : Ça semble une bonne nouvelle, mais c'est insuffisant. Fin de citation, dit-il. La SCHL estime que, pour rétablir l'abordabilité, il devrait se construire 150 000 logements par année au Québec d'ici 2030, c'est-à-dire plus de trois fois la quantité prévue pour 2024 par la PCHQ. Dans ce contexte, l'Association canadienne de l'immobilier, qui représente les courtiers immobiliers partout au pays, prévoit que le prix moyen des propriétés résidentielles augmentera au Québec plus de 2,1 et que le marché demeurera à l'avantage des vendeurs avec un volume de vente en hausse de 8,5. Citation : Certains acheteurs sont passés en mode hibernation et attendent les baisses de taux pour se lancer. Fin de citation, note Sean Cathcart. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, APCIQ, prédit plutôt une légère baisse des ventes, moins 2, et des prix qui resteront stables. Du côté du marché locatif, la pénurie de logements fait mal, et les locataires doivent aussi composer avec des loyers poussés à la hausse en raison des taux d'intérêt élevés subis par les propriétaires. Kevin Hughes entrevoit la même dynamique cette année, des taux d'inoccupation très bas et des appartements plus chers à louer. Citation : L'enjeu du logement continuera d'être très difficile, en particulier pour les ménages à faible revenu. Fin de citation, affirme-t-il. Scénario moins probable : une baisse des taux dès maintenant. Jimmy Jean ne ferme pas complètement la porte à une baisse du taux directeur dès le premier trimestre, mais il juge ce scénario peu probable compte tenu des signaux lancés jusqu'à présent par la Banque du Canada. Si cela devait se produire, le marché de la revente serait dynamisé et les prix des maisons grimperaient encore davantage en 2024, prédit Sean Cathcart. Scénario improbable, des maisons dont les prix vont baisser et des taux d'intérêt qui vont stagner. Citation : Avis à ceux qui pensent que les prix des propriétés résidentielles vont dégringoler. Ça n'arrivera pas, lance Sean Cathcart. Il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Fin de citation. Un taux directeur à 5 pendant toute l'année freinerait peut-être la montée des prix de l'immobilier, croit-il, mais sans plus. Au fait, la Banque du Canada pourrait-elle laisser le taux directeur inchangé en 2024? Citation : Cela signifierait que l'économie aurait rebondi au premier trimestre, répond Mathieu Arsenault. La probabilité est, selon moi, très, très faible. Fin de citation. C'était « Se loger coûtera-t-il moins cher? » un texte de Carl Rétino-Paratelli, paru dans la revue L'Actualité, édition mars 2024.
Comment être moins accro à la techno? Un texte de Melissa Kirsch, paru le 19 janvier 2024 dans le New York Times et repris dans la presse. Je reviens d'une semaine hors ligne. C'était une sorte de retraite en forêt pour personnes débordées et surchargées qui se sont réfugiées dans de confortables chalets pour se ressourcer. Je craignais d'être anxieuse, de penser constamment aux informations qui continuaient d'affluer dans mes appareils éteints. Mais non, ça a été facile. J'étais comme une personne qui va promener son gros chien, conditionnée à ce qu'il tire fort sur la laisse, encore et encore. J'étais surprise de regarder vers le bas et de constater qu'il n'y avait rien. J'avais déjà fait moi-même, en solo, des sevrages numériques d'une journée. J'avais l'impression de rater des communications cruciales. Mais pas cette fois. J'étais avec 30 autres personnes en désintoxication, comme moi. Sans ordi ni téléphone, nous avons renoué avec des pratiques d'une autre époque, comme le contact visuel et la conversation légère. La consigne était de rester présent, même durant les silences, ce qui a créé une sorte d'intimité. Le monde réel, dans toute sa vivacité, a richement meublé le temps. J'étais ancrée dans le déroulement de la vie quotidienne, un moment à la fois. S'il m'arrivait de penser à mon téléphone, imprévisible, asynchrone et chaotique, je me le représentais avec dédain, comme un ami imprévisible et énergivore que je devais bannir de ma vie. Retour brutal. Comment, me demandais-je, pourrais-je me libérer du joug de la technologie sans m'imposer une retraite en forêt? Qui parmi nous peut vraiment se déconnecter complètement pendant de longues périodes? Ou exiger de sa famille, ses amis et ses collègues de faire de même? Les trucs et conseils habituels sont connus. Pas de téléphone dans la chambre à coucher, pas d'appli de médias sociaux sur le téléphone, écran en teinte de gris. Pourquoi ces résolutions ne tiennent-elles jamais? J'ai demandé à Oliver Berkman, auteur du livre sur la gestion du temps « 4,000 weeks », 4,000 semaines, la durée de vie moyenne d'un être humain, s'il avait de nouvelles idées pour assainir notre relation avec la techno. Le titre de son livre amène à se demander « Combien de ces semaines ai-je déjà perdu à faire défiler des articles sur la fin du monde ?» Selon M. Berkman, il n'y a pas de truc magique pouvant à lui seul nous libérer de notre dépendance au téléphone. Mais si on modifie sa perspective, certains changements pratiques peuvent fonctionner. Changer de perspective. La clé, selon M. Berkman, est d'ajuster ses perceptions. Il conteste l'idée reçue sur la distraction et les médias sociaux, selon laquelle nos efforts vertueux pour nous concentrer sont victimes des forces maléfiques de la Silicon Valley, qui sape notre volonté et notre attention avec Instagram et Facebook. Ce n'est pas ce que vivent la plupart des gens, dit-il. En réalité, notre travail déclenche en nous des émotions désagréables, comme l'ennui, la peur d'échouer ou la crainte de manquer de temps. Alors, pour échapper à ces sentiments désagréables, on se réfugie dans son téléphone. Or, il est conçu pour capter notre attention et absorber toute notre journée. Il faut donc garder à l'esprit l'idée que la distraction commence à l'intérieur de soi, pas dans le laboratoire d'une méchante société techno qui veut casser notre concentration, dit M. Berkman. En assumant cela, c'est nous qui sommes responsables. Et quand les émotions désagréables surgissent, nous les reconnaissons et nous sommes mieux équipés pour y résister. Vivre dans la vraie vie. Ce qui me manque le plus de ma semaine sans techno, c'est le sentiment qu'il n'y avait que la vie réelle, sans cet univers parallèle en ligne où j'ai des responsabilités, des tâches et un personnage à assumer. J'existais dans un seul lieu. Plutôt que d'essayer d'éradiquer les médias sociaux, M. Berkman suggère de travailler à faire basculer notre réglage par défaut vers la vie réelle. Rappelez-vous que la vraie vie est ici, dans l'environnement physique, là où on parle aux gens et fait des choses. Faites des médias sociaux un endroit où vous allez faire un petit tour. Pas l'endroit où vous vivez, a-t-il déclaré. Mettez de la distance entre vous et les sonneries et alertes de votre téléphone, conseille la docteure Aditi Nerurkar, médecin interne à la Harvard Medical School et autrice de « The Five Resets », un livre sur le stress et la résilience. Éloignez-le d'au moins 3 mètres de votre poste de travail le jour et de votre table de nuit le soir. Désactivez les alertes et les notifications instantanées. Pendule à coucou et sablier. Céleste Headley, journaliste et autrice du livre « Do Nothing », a récemment investi dans une pendule à coucou. Les applis de téléphone ont été conçues pour capter notre attention en nous encourageant à ne plus avoir conscience des minutes qui passent, explique-t-elle. Chaque heure, le coucou sort de la pendule et l'incite à lever les yeux et à prendre conscience du temps qu'elle peut avoir perdu, le nez dans ses appareils. De même, quand Mme Headley a besoin de se concentrer, elle retourne sablier de 30 ou 60 minutes. Lorsqu'elle est tentée d'attraper son téléphone, le sable qui s'écoule lui rappelle que quelques minutes seulement ont passé depuis qu'elle a commencé une tâche. M. Berkman prévient que changer un comportement peut être inconfortable au début. C'est comme développer de nouveaux muscles. Pour certains, changer vraiment ne se fait pas en adoptant d'un coup un régime rigide. Mieux vaut être un peu plus doux avec soi-même. Si on perd une heure sur les médias sociaux, on peut en prendre acte et passer à autre chose. C'est une approche parmi d'autres. M. Berkman prône l'approche dure, mais admet que la méthode douce a ses avantages. J'ai une réaction d'agacement et de gêne quand j'entends parler d'autocompassion. Mais vous savez quoi? C'est parce qu'elle est nécessaire et que j'en ai besoin. C'est souvent dans ces cas-là qu'on a ce genre de réaction. C'était « Comment être moins accro à la techno », un texte de Melissa Kirsch, paru le 19 janvier 2024 dans le New York Times et repris dans la presse.